quand j'avais 25 ans, j'ai traversé les États-Unis pour aller rencontrer pour la première fois de ma vie ma demi-sœur, dont j'ai appris l'existence seulement quelques mois auparavant, quand j'ai reçu une lettre de sa part avec une photo de ses quatre filles. Alors ce jour-là, en juillet 2006, j'ai fait la connaissance d'une femme qui avait vécu une vie très différente que la mienne. Une femme qui avait traversé des difficultés et des luttes que je n'aurais pas pu imaginer pour moi-même. Une femme qui n'avait pas connu une vie de famille stable comme celle que j'avais vécue. J'ai rencontré ce jour-là une femme au cœur brisé et en colère contre un Dieu auquel elle ne croyait plus. Sans entrer dans tous les détails de cette histoire, j'admets que j'ai découvert ce jour-là le genre de tourment qui peut toucher une famille quand celle-ci est dysfonctionnelle et dans le chaos. Mais on voit bien autour de nous que le foyer moderne est en désordre, n'est-ce pas? Bien sûr, ça ne veut pas dire que les problèmes familiaux n'existaient pas dans le passé. Mais nous vivons dans le présent et selon des statistiques récentes, il y a plus de 100 000 divorces par an en France. C'est quelque chose comme 120 000 par an. Et cela depuis longtemps. Il y a 2 millions d'enfants mineurs en France dont les parents sont divorcés. 34% de ces enfants ne voient jamais leur père. On a tous entendu parler des statistiques qui montrent le lien qui existe entre les désordres familiales et l'échec des enfants à l'école, par exemple, ou dans la société. Les péchés et les abus passent d'une génération à l'autre, n'est-ce pas? De plus, on a tous vécu la redéfinition récente de la famille. Dans le passé, le monde occidental chrétien, entre guillemets, définissait la famille comme étant un père et une mère, engagés devant l'État et devant Dieu, et qui avaient les enfants. Et donc un père, une mère et plusieurs enfants. Mais cette définition a changé petit à petit de sorte qu'une famille est maintenant définie par l'émotion de l'amour ou par quelque chose encore plus indécis que ça. Il y a famille là où il y a de l'amour, nous dit-on. La famille, c'est là où sont assemblés des gens. C'est ça la famille. Si on pense être une famille, on est une famille. C'est ça qu'on dit, tout en niant les dommages que ça peut provoquer. Et autour de nous, on voit beaucoup de cellules familiales caractérisées par des abus, par des parents absents, par des enfants qui manquent de discipline, de respect et d'instruction. Tous ces faits bien documentés montrent que la réussite du foyer a une influence directe sur la réussite d'une société. Et la solution proposée par beaucoup de gens est une solution centrée sur nous-mêmes, sur nous qui sommes des êtres humains déchus et inclins à tout gâcher. Bonne chance, n'est-ce pas? Cette solution nous propose de dépenser plus d'argent sur les gens, sur l'éducation, sur d'autres ressources qui assureront le succès. Et ces choses sont des choses bien, des choses utiles. Mais ils sont limités, n'est-ce pas? C'est comme une nouvelle couche de peinture que l'on mettrait sur une maison complètement décrépite. Ces choses ne vont pas résoudre le vrai problème. Il y a quelque chose de plus grave que les problèmes relationnels qui existent entre les membres de la famille. Ça, c'est le problème relationnel qui existe entre nous et Dieu. Alors, je ne suis pas en train de nier la responsabilité qu'on a en tant qu'être humain. Les chrétiens doivent être, en quelque sorte, les meilleurs humanistes, dans un sens, et investir dans l'humanité pour le bien d'humanité. Mais pour nous, en tant que chrétiens, cet investissement doit être centré sur Dieu, afin qu'il finisse par glorifier Dieu. Oui, le foyer est en désordre. Mais Éphésiens 6, verset 1 à 9, nous présente une solution centrée sur Dieu. On va lire donc Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 9. Enfants, Obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme au Christ. Et cela non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de toute leur âme la volonté de Dieu. Servez-les de bon gré, comme si vous serviez le Seigneur et non les hommes, sachant que chacun, esclave ou libre, recueillera du Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Quant à vous, maître, agissez de même à l'égard de vos serviteurs. Abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre et dans les cieux, et que devant lui, il n'y a pas de considération de personne. Avant d'aller plus loin, je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole est inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Nous te prions afin que tu nous enseignes par cette étude, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Alors ce texte en Éphésiens 6 nous offre donc une alternative au désordre familial, en soulignant quatre principes. Donc on a quatre points aujourd'hui. On commence par les versets 1 à 3. Ces trois premiers versets nous invitent à avoir une attitude qui honore le Seigneur. Une attitude qui honore le Seigneur. Ça nous dit tout simplement que Dieu est honoré quand nos parents sont honorés. Paul s'adresse aux enfants parce qu'il comprend les difficultés relationnelles qui existent parfois entre les parents et les enfants. Il sait qu'il y a des parents qui ne semblent pas être dignes d'honneur, mais il sait aussi qu'il y a des enfants qui sont des vraies terreurs pour leurs parents. Mais il nous dit aussi que les enfants ont une responsabilité dans le bon fonctionnement du foyer. Comme on l'a vu dans le texte précédent sur le mariage, il y a un ordre dans la création, un ordre à respecter. Paul sous-entend que les enfants à qui il s'adresse sont assez âgés pour comprendre et pour respecter cet ordre. L'obligation d'honorer ses parents n'est pas limitée à un âge particulier, et ça suggère un mode de vie caractérisé par l'obéissance et le respect. La promesse que Paul attache à ces versets, il emprunte directement de l'Ancien Testament et au commandement que l'on trouve dans Exode chapitre 20, verset 12. Cette promesse garantit une bonne et longue vie sur terre. Donc la lecture la plus naturelle de ce texte suggère une vraie bénédiction dans la vie terrestre. Et bien qu'il y ait des exceptions, le principe est le suivant. Un foyer dont les membres prennent soin les uns des autres est plus inclin à connaître une bonne santé émotionnelle, physique, intellectuelle et même spirituelle. Les enfants qui contribuent au bien de leur famille et qui obéissent à leurs parents contribuent à cet environnement sain. On peut imaginer comment ça aurait marché dans la culture juive de l'Ancien Testament. Un homme qui respectait et qui honorait son père et sa mère aurait pris soin de ses parents dans la vieillesse. Et en observant cela, les enfants de cet homme auraient à leur tour appris comment appliquer ce principe à leurs propres parents. C'était une culture fondée sur la vie. Mais cette promesse a aussi une application spirituelle. En honorant notre Père céleste à travers notre repentance, notre foi, notre obéissance, nous recevons la vie éternelle dans sa présence. Ces versets nous rappellent que nos parents représentent une certaine autorité que Dieu a placée sur nous. Ici, Paul nous encourage à ne pas utiliser notre âge comme excuse. Je suis trop jeune pour me soucier de ça, par exemple. Je suis trop vieux pour commencer de me soucier de ça. Ces versets nous incitent à honorer ceux qui ne sont pas toujours dignes d'honneur, en honorant celui qui est toujours digne d'honneur. Vous voyez? Et ça, c'est dur. Il y a ceux qui s'entendent bien avec leurs parents, qui ont grandi dans une bonne famille chrétienne. Mais il y en a d'autres parmi nous qui n'avons presque rien de positif à dire par rapport à nos parents. Eh bien, n'oubliez pas que vous avez un Père céleste parfait qui rachète des êtres imparfaits afin de les transformer, de les glorifier au ciel. Nous honorons nos parents terrestres parce que nous voulons honorer notre Père céleste. Nous pouvons honorer l'autorité que Dieu a placée sur nous en pardonnant leurs fautes, en obéissant aux règles qui sont imposées pour notre bien et en montrant notre gratitude pour le bien qu'ils font. C'est là donc, premièrement, dans cette attitude qui honore le Seigneur, qu'on commence à réparer le désordre d'un foyer en mauvais état. Mais deuxièmement, au verset suivant, Paul tourne son attention vers le père de famille et parle maintenant d'un esprit qui enseigne le Seigneur. Encore une fois, l'accent est sur Dieu. Dieu est le modèle d'un bon père. Dans l'ordre de la création, le père occupe une place d'autorité. Mais comme les versets précédents le sous-entendent, les deux parents sont responsables pour leurs enfants. Le verset 4, en tout cas, nous appelle à livrer à nos enfants un enseignement centré sur Dieu. D'abord, la responsabilité des parents est d'enseigner l'Évangile afin que les enfants comprennent le plan rédempteur de Dieu qui les concerne. Mais ensuite, cette éducation suppose que chaque domaine de la vie soit lié à Dieu. Par exemple, la recherche scientifique a un sens parce que Dieu a créé un monde que l'on peut connaître, vous voyez? Le savoir a un sens parce que Dieu est un être rationnel. Il nous a donné une raison. L'histoire a un sens parce que c'est l'histoire de notre Dieu qui a un bon plan, qui fait triompher le bien à la fin. C'est un happy end, vous voyez? L'art et la musique ont un sens parce que la beauté trouve son origine en Dieu. Et c'est notre connaissance de Dieu qui harmonise tous les domaines de la vie. L'application de ces versets est claire. Si vous n'enseignez pas vos enfants par rapport à Dieu, quelqu'un d'autre va le faire, mais avec un résultat peut-être indésirable. On ne vit pas dans un univers intellectuellement neutre. Dans le meilleur des cas, les médias, les écoles enseignent tout en gardant le silence sur la religion. Mais bien souvent, ils enseignent selon une idéologie anti-Dieu, anti-religion, anti-chrétien. Ce n'est pas pour dire que les médias et l'éducation publique ne sont pas des bonnes choses. C'est pour dire tout simplement que vous avez une responsabilité envers vos enfants, de les éduquer selon le Seigneur. Plus vous connaissez le Seigneur par sa parole et par la prière, plus vous serez apte à conduire vos enfants dans cette connaissance. Imaginez que vous soyez obligé d'assembler un moteur de voiture pièce par pièce, sans manuel d'instruction. Même pour un garagiste, ce ne sera pas évident, n'est-ce pas? C'est difficile ça. Mais maintenant, imaginez que vous soyez obligé d'assembler ce moteur sans manuel d'instruction, tout en expliquant comment le faire à un enfant, mais au téléphone. Pas évident. Et ça, c'est un peu comme ça que nous vivons en tant que parents, aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais heureusement, Dieu ne nous a pas laissés tout seuls. Il nous a donné sa grâce et sa parole qui nous guide. C'est notre manuel d'instruction. Bien que vous ne soyez pas parfait en tant que père ou mère, vous pouvez pointer vos enfants vers le Père qui est parfait, notre Dieu. Un foyer chrétien en bon état commence donc premièrement par une relation avec Dieu en bon état et deuxièmement par une éducation centrée sur Dieu. Mais troisièmement, le combat contre un foyer en désordre réussit quand toutes les mains du foyer servent le Seigneur. L'idée principale des versets 5 à 8, c'est que Dieu est honoré par votre conduite, même derrière des portes fermées. Alors, vous allez remarquer que ces versets parlent aux esclaves, aux serviteurs du foyer. Bien sûr, ça nous choque un peu aujourd'hui, mais l'esclavage à l'époque des Romains était très complexe en fait. On n'a pas le temps aujourd'hui de rentrer dans tous ces détails. Et c'est vrai qu'il existait des esclaves qui étaient plutôt des prisonniers, qui étaient maltraités par exemple, ou châtiés, ou exploités, etc. Mais les esclaves mentionnés dans ce texte ici faisaient partie du foyer, ce qui était aussi très courant dans la culture romaine. Ils avaient certains droits, par exemple, certaines obligations, certaines libertés, et parfois beaucoup de responsabilités aussi. Alors le but de ce texte n'est pas d'excuser l'esclavage, d'accord? C'est pas d'excuser l'esclavage, ni de condamner l'esclavage. Ce texte dit tout simplement qu'un certain genre d'esclavage était pratiqué dans la société d'Éphèse, et que les chrétiens, quelle que soit leur situation sociale dans la vie, avaient l'obligation d'honorer Dieu en premier. Même dans la tradition de l'Église, je vais mentionner certains papes comme Clément Ier et Pie Ier étaient des esclaves affranchis. Mais encore une fois, le but ici est de montrer comment fonctionne un foyer consacré à Dieu. Et ici, l'idée de l'esclavage est une très bonne image de notre relation à Dieu, ce qui explique pourquoi la Bible emploie cette image ailleurs dans la Bible. Romains chapitre 6, par exemple, verset 22, nous rappelle que nous sommes libres du péché, mais esclaves de Dieu. Nous sommes libres de péché, mais esclaves de Dieu. C'est lui notre maître. Et c'est envers lui que nous avons certaines obligations. Ce qu'on fait pour notre foyer ne sert pas juste à gagner l'approbation de Dieu, vous voyez? Ça sert à honorer Dieu aussi. On n'est pas appelé à être fidèle seulement sous les yeux des hommes, mais à l'être pour la gloire de Dieu. On obéit à nos parents, pas seulement quand nos parents nous regardent. On aime notre femme, pas seulement quand les yeux du monde sont sur nous. On éduque nos enfants dans la justice, pas seulement pour être approuvés de l'Église, mais parce que notre foi est consacrée au Dieu qui nous a sauvés par sa grâce, vous voyez? Je me souviens d'une fois quand j'étais enfant, ma mère m'a demandé de passer l'aspirateur dans ma chambre. J'étais très petit, je ne sais pas, 8 ans, 9 ans, quelque chose comme ça. Et je n'avais aucune envie de le faire. Et donc, et ça c'est très intelligent, j'ai allumé l'aspirateur, je l'ai laissé fonctionner pendant quelques minutes dans un coin de ma chambre, pendant que je faisais autre chose, pas mal. Mais un peu plus tard, ma mère est entrée dans la chambre. Et quand elle a vu que le sol était toujours sale, elle m'a grondé et m'a fait repasser l'aspirateur. Cette fois, j'étais moins intelligent, j'ai allumé l'aspirateur et j'ai laissé fonctionner dans un coin tout en essayant de ramasser les petites poussières à la main. Vous voyez? C'était une attitude de défi, un acte de défi. C'était fou, mais c'était un acte de défi. Alors la troisième fois, avec mon père à la porte, j'ai fait le travail correctement. Mais souvent, nous vivons exactement comme ça. Nous vivons comme si Dieu ne nous regardait pas ou comme s'il ne s'intéressait pas à ce qu'on fait. Une attitude chrétienne ne se dit pas par peur, je vais faire ce travail très scrupuleusement parce que le grand chef me regarde depuis le ciel. Ce n'est pas ça la bonne attitude. Mais plutôt, je vais faire ce travail avec gratitude dans mon cœur en raison de ce que Dieu a fait pour moi en me rachetant. Je vais le faire afin de proclamer sa gloire. C'est ça la bonne attitude. Un foyer en bon état, c'est un foyer où toutes les mains servent le Seigneur en servant les autres. Nous ne vivons pas dans la même situation que les chrétiens d'Éphèse, où il y avait des esclaves qui appartenaient au foyer de leur maître. Mais en même temps, le principe du service s'applique à nous tous. Et donc, est-ce que nous assumons bien les responsabilités que Dieu nous confie? C'est une question qu'on doit se poser. Enfin, quatrièmement, le dernier verset de ce passage nous incite à agir selon une justice qui imite celle du Seigneur. Une justice qui imite celle du Seigneur. Si vous êtes dans une position d'autorité, votre autorité est subordonnée à celle de Dieu. Vous n'êtes qu'un manager qui représente l'autorité de PDG, dans un sens. Et cette réalité doit nous encourager à répondre à toute situation avec une justice qui imite celle de Dieu, notre PDG. Alors, ce verset s'applique premièrement au père de famille, mais aussi à la mère, et même aux enfants, dans certaines situations où ils auraient une autorité à exercer. Autrefois, j'ai travaillé dans une entreprise pendant quelques années, une entreprise dont le patron voyageait souvent. Et quand le patron voyageait, le manager abusait régulièrement son autorité. Il s'assied dans le fauteuil du patron, dans son bureau, avec ses pieds sur le bureau, littéralement, je ne plaisante pas, au téléphone toute la journée. Il exigeait beaucoup des employés, sans rien faire lui-même. Mais ce texte nous avertit contre ce genre d'attitude. On ne doit pas assumer notre autorité comme un manager cruel et paresseux. Parce qu'on est tous des serviteurs sous l'autorité de Dieu. Nous allons tous nous trouver dans des positions d'autorité des fois, surtout dans le foyer. Nous devons être des pères responsables vis-à-vis de leur famille, des mères responsables vis-à-vis de leurs enfants, des enfants responsables vis-à-vis des frères et sœurs plus jeunes, et même des célibataires responsables vis-à-vis de leur propre foyer, qu'ils vivent chez leurs parents, ou seuls, ou en colocation. Nous allons tous avoir l'occasion d'exercer une certaine autorité vis-à-vis de ceux qui viennent vivre sous notre toit. Et sous ce toit, on doit trouver l'amour, la justice, la loyauté et le respect de l'ordre qui sont caractéristiques des serviteurs de Dieu. Pour conclure, je voudrais ajouter que notre société a tendance à minimiser le rôle du père dans le foyer. Eh bien, que chaque personne dans la famille doit contribuer à la réussite du foyer, Dieu place beaucoup de responsabilités sur le père. C'est vous, messieurs, qui êtes particulièrement en position de créer un environnement favorable dans le foyer. Mais j'ajoute aussi qu'être un bon parent, ça ne garantit pas d'avoir des enfants qui suivent le Seigneur. Personne n'est sauvé sur la base d'œuvres humaines. Si nous sommes parents, nous devons assumer fidèlement nos responsabilités, mais tout en nous appuyant de tout notre poids sur la grâce de Dieu. Notre Père Céleste est lui-même un parent parfait, mais il a des enfants rebelles, n'est-ce pas? Il a des enfants pécheurs, violents, même remplis de haine pour leur Père. Mais ce Père parfait a montré sa perfection et son amour parfait en venant sur terre afin de sauver ses enfants rebelles et en quelque sorte de réconcilier son foyer. Ce texte nous livre donc quatre principes qu'en réalité nous ne pouvons pas accomplir par nous-mêmes. C'est impossible. Dans la famille, le mieux qu'on puisse faire tout seul, c'est le désordre. C'est le désordre. Mais notre Dieu a accompli tous les rôles mentionnés dans ce texte. Il est un fils qui honore son Père céleste. Il est un père qui instruit ses enfants dans la vérité. Il est un serviteur qui s'est humilié en devenant homme et en obéissant à la volonté du Père. Il est un bon maître qui administre la justice. Et grâce au sacrifice de Jésus à la croix, la dette de notre péché est payée. Notre relation à Dieu est restaurée. Le succès d'un foyer consacré à Dieu est engagé avec Dieu est possible parce qu'on a un Dieu qui est lui-même consacré à notre salut et engagé avec nous pour notre bien. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions pour ce texte qui nous rappelle de notre besoin de toi. Nous te confessons la rébellion dans notre cœur qui mène au désordre dans le foyer et dans la vie en général. Seigneur, nous te prions afin que tu nous conduises chaque foyer de cette église vers toi pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.